C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Oui, l'after est là, bien sûr. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, François Bernardo. On accueille Jacques Blosiewski avec nous dans quelques instants pour parler vidéo. Mais donc, Daniel, tu voulais parler avec François pour conclure sur le dossier instance. Tu voulais parler des Wall Street Journal.
Bien sûr. Et de l'extension de la Ligue des Champions, en fait, qui ressemble tout simplement à une Super League. Clairement. Comment tu vois ça, toi?
Pour moi, d'ailleurs, on va en parler, c'est le sujet d'après. Pour moi, le problème, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que si ça ressemble à une Super League, il faudra que tu aies un panel d'arbitres qui officient dans cette Super League. Et c'est contre la politique même d'une instance qui fait participer tout le monde. On l'a vu sur le match du PSG, le match de Rennes, le match de Lyon. On a un Letton, un Polonais et... la dernière nationalité ne me revient plus en tête. Donc si tu fais une Super League, t'es fermé et tu dois partager ça dans l'élite. Moi, je trouve que c'est là que c'est peut-être que le bas blesse.
Enfin, tu fais une Super League, tu prends les arbitres, tu les payes.
Ils quittent leur fédération et ils viennent.
Quand tu fais les choix des arbitres, tu dois éviter autant que faire se peut qu'ils reviennent toujours sur les mêmes matchs.
Non, mais sur cette question-là, le problème de l'arbitrage, je m'en fous. C'est juste le fameux serpent de merde. À chaque fois qu'on croit écarter l'idée de la Super League, en fait, ça revient indéfiniment. Et là, j'ai trouvé bizarre que ça apparaisse dans un journal américain. En l'occurrence, c'est Wall Street Journal qui en a parlé. Est-ce que toi, t'as eu vent de discussions à l'UEFA?
Non, c'est l'ECA qui parle d'une Super League. Elle le fait depuis pas mal de temps, menaçant.
Oui, mais gentiment.
L'ECA, c'est l'association des clubs.
Oui, mais c'est sous la pression de qui qu'on parle de ça finalement? Qui veut réellement? Parce que immédiatement, Teba a immédiatement réagi.
Oui.
Surtout là, lui, il a dit qu'il ne voulait absolument pas entendre parler de cette idée, qu'il a trouvé grotesque, qu'il voulait pas en entendre parler. Après, Tebas, il va pas être toute sa vie à la tête du football espagnol, donc les hommes passent et des fois d'autres arrivent avec des idées nouvelles.
Tebas, ce serait comme qui passe, Tebas.
Comme Platini d'ailleurs, une fois qu'il a quitté, tout est parti.
T'as des nouvelles de Michel d'ailleurs,
Ça va bien, ouais.
Prépare son comeback ou?
C'est le 8 octobre que ça se termine. Mais par rapport à la question de la Super League, c'est toujours le problème de si tu fais une Super League, ok, t'auras tes équipes. Derrière la Super League, c'est la Juventus qui pousse à fond, ben sans doute parce qu'ils ont fait beaucoup de finales et beaucoup de défaites, et ils aimeraient bien avoir peut-être un format de compétition qui leur permette de gagner un peu plus de Ligue des Champions qu'ils n'en auraient voulu. Mais pour moi, le problème reste entier, c'est une question d'arbitrage au niveau de la Super League. Si l'UEFA ou la FIFA dit, OK, vous faites votre Super League, mais il n'y a plus d'arbitre, parce qu'un arbitre qui va arbitrer un match de Super League, fini, il ne fait que ça. Tu peux pas avoir un type qui reste 3 mois dans son fauteuil à attendre de faire un nouveau match, ou bien qui continue à faire 3 fois ou 4 fois en 6 mois, un match du Barça, un match du Bayern. Ça fonctionne pas comme ça.
Bon,
il faut désigner des mecs qui roulent au niveau des clubs et pas des gars qui en font toujours les mêmes équipes, sinon tu risques d'avoir un souci de collusion au moment ou à un autre.
Transition parfaite pour parler de l'arbitrage vidéo. Jacques Blosiewski, bonsoir. Bienvenue dans l'After. Jacques, qui avait déjà participé à un After il y a quelques années pour un premier bouquin, le match de football télévisé. Donc bouquin de référence si vous vous intéressez à l'arbitrage vidéo, hein, puisque.
Mais il est épuisé depuis un bon moment, malheureusement.
Ah, moi j'ai gardé
il est
mon.
2007.
Moi j'ai gardé le mien bien précieusement. De temps en temps on le consulte avec Daniel.
C'est marrant parce que ce livre-là dont on avait parlé dans l'After, qui avait fait grand bruit à l'époque.
C'est un peu comme une petite bible hein, pour nous, Daniel.
Ah ouais, et c'était. Mine de rien, on se disait, est-ce que ça va vraiment voir le jour, la vidéo dans le foot?
C'était, oui, à l'époque, c'était
un projet.
Sorte d'utopie.
Et puis, on avait, tant qu'il y avait Blatter et Platini qui tenaient et qui étaient vraiment contre. Et puis, comme je disais, les hommes passent et des nouveaux arrivent avec d'autres idées. Finalement, c'est allé très vite. À partir du moment où vraiment la décision a été prise, l'application a été quasi immédiate. Je pense que le grand tournant, le grand virage a été la Coupe du Monde 2010. Et le but refusé à Lampard, je pense que c'est là, il y avait vraiment un électrochoc ce jour-là, alors que c'était pour le coup un but goal line, quoi.
Ouais, absolument.
C'était un but goal line. Ça a été un vrai virage, et derrière, on a été que vers comment dire, inexorablement vers quelque chose qui s'annonçait là. Dorénavant, il n'y avait plus matière à revenir en arrière.
Oui, c'est exactement.
Donc voilà,
ça.
Maintenant on y est. Depuis, entre-temps, il y avait eu d'autres livres. Hein. Il y avait eu Bruno Derrien a fait un livre pour expliquer qu'il était pour, mais en fait dedans, il n'arrivait pas à donner les modalités.
Alors, aujourd'hui, il est contre. Hein. D'ailleurs, Jacques en parle dans son.
Mais
dans
c'est
son
vrai. Livre. Mais Bruno Derrien, dans son livre, disait qu'il était pour, mais n'avait pas les modalités d'application. Ouais. Bon, maintenant ils y sont. Donc maintenant, là, ça fait depuis, on va dire l'été dernier, qu'on est à fond dedans, que la Coupe du Monde nous a complètement baigné dedans. Et bah, j'ai l'impression que tu as cru bon de réagir immédiatement.
Ouais, alors, c'est une sorte de bordel.
C'est une sorte de mise à jour en fait. Finalement, le bouquin qui sort là, donc l'arbitrage vidéo 2. Comment la FIFA tue le foot, aux éditions de Lara L'ARA. Voilà, je le montre. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui, Jacques? Alors.
Bah parce que d'abord il fallait quand même mettre les choses un peu à jour, et puis alors ce qu'a fait Infantino quand même sur la Coupe du Monde, ça m'a scié complètement quoi. C'était cette façon d'imposer il a quasiment pris la Coupe du Monde en otage quoi. C'est-à-dire qu'il est les tests n'étaient pas finis, il a mis en place un certain nombre de tests dans un certain nombre de pays, les tests n'étaient pas finis. Ça se passait mal en plus hein, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup suivi l'Allemagne hein, la Bundesliga. En Italie, c'est Jérôme Latta plutôt qui s'en occupait, mais moi j'ai eu beaucoup de données sur l'Allemagne, ça se passait très très mal. La presse allemande était absolument furieuse.
Les joueurs eux-mêmes.
C'était un désastre.
Et ils avaient dit qu'ils mettraient beaucoup plus de temps à le mettre en œuvre parce que justement on voulait tester longtemps. Moi, quand je m'étais intéressé que c'était pas encore en application, je me souviens avoir rencontré Gary Bian à la Fédé, qui disait qu'il faisait beaucoup de tests. Il disait mais ils étaient pas encore complètement au point. Et d'un coup, ça s'est précipité.
Mais pourquoi il a fait ça alors? Parce qu'il voulait marquer genre un peu l'histoire en quelque sorte.
Platini partant, lui étant le second qui avait été dans l'ombre. Il voulait immédiatement mettre...
Le fidèle collaborateur a fait exactement le contraire de son ancien patron. Quoi.
Alors là, on parle des événements récents.
C'est Judas, Infantino.
J'aimerais juste que, Jacques, alors je sais que c'est pas forcément un exercice facile, mais qu'en quelques mots, on rappelle pourquoi, selon tous les travaux effectués depuis des années maintenant, pourquoi la vidéo est inapplicable dans le football. En quelques mots,
elle est applicable, mais elle marche mal parce qu'il y a c'est de l'image, quoi. Voilà. D'abord, c'est la télévision, c'est une utilisation d'image de télévision pour un usage qui est pas l'usage normal de la télévision. La télévision, c'est fait pour du spectacle. C'est pas censé arbitrer, être aussi directement impliqué dans l'arbitrage. Puis alors, il y a les questions d'interprétation qui sont absolument sans fin, quoi. Selon les ralentis, vous avez des avis différents.
Hein. Donc vous, c'est plus évidemment l'outil que vous contestez plutôt que l'humain qui bénéficie de cet outil.
Moi, j'ai analysé l'outil. Voilà, je trouve que c'est un outil qui marche très très mal. Et évidemment, ça casse le rythme du match. Moins qu'on pouvait le craindre finalement, hein, mais enfin ça reste quand même un peu lourd, quoi. Et puis vous avez tout un discours, ça qui était vraiment extraordinaire en dehors des modalités, vous avez tout un discours de gens qui vous racontent mais absolument n'importe quoi sur la vidéo, quoi. Y compris la FIFA par exemple, le bilan de la FIFA pendant la Coupe du Monde, mais c'est un scandale. C'est n'importe quoi. On vous dit par exemple qu'il y a eu 99,3% de décisions correctes pendant le mondial, mais c'est... On se pince, quoi.
Peut-être que le 0-7, c'est le pénalty pour la France en finale. Peut-être. Peut-être que le 0-7 manquant, c'est le pénalty de la France en finale.
Oui, mais voilà, mais c'est quoi les 0-7?
Je suis d'accord, j'avais réagi de la même façon.
Ce qui, là, ce que vous remettez en question, c'est l'honnêteté intellectuelle.
Mais oui.
De monsieur Collina.
Ouais, ouais.
Qui est le patron de l'arbitrage à la FIFA, donc le patron de l'arbitrage dans le monde. Par rapport aux éléments chiffrés qui sont mis à la disposition de tous les médias, y compris ici.
Les éléments chiffrés sur la réussite, tu fais ce que tu veux, parce que tu peux toujours estimer.
Tu peux pas prendre tous les journalistes du monde pour des imbéciles, non?
Mais non, mais pas du tout, François.
Non, mais si j'estime que les décisions sont bonnes.
Tu peux dire que la décision a été rectifiée dans le bon sens, alors que tu n'es absolument pas convaincu qu'elle a été décidée dans le bon sens. Si moi, on me dit, par exemple, que sur la finale, la main a rectifié une erreur après visionnage, je dis, non, au contraire, pour moi, elle a fait l'inverse de la bonne décision.
Parce qu'il y a une question d'interprétation.
Mais c'est une question d'interprétation que t'as avec. Exactement. Dans la vidéo, de toute façon, l'interprétation, elle existera toujours. Mais tu peux pas nier, vous pouvez pas nier non plus que il y a eu des situations et des faits de jeu qui ont été améliorés.
Oui,
le...
mais en même temps, il y a un côté mécanique maintenant dans les décisions. C'est très frappant. C'est ce qu'on a vu sur PSG Manchester et c'est à mon avis ce qu'on a vu aussi sur le penalty contre la Croatie en finale. C'est-à-dire que à partir du moment où on voit quelque chose, on se dispense d'interpréter. C'est-à-dire qu'on, c'est comme si on était tellement content d'avoir trouvé ce truc parce que la main de Perisic, personne l'a vu. Hein, l'arbitre, il l'a pas vu. Hein, donc c'est le super ralenti qu'il a montré, quoi. Et du coup, on applique quasiment mécaniquement, de façon robotique. PSG Manchester, c'est pareil.
Dans le bouquin, vous combattez la phrase toute faite qui dit « l'image, c'est la vérité ». En fait, l'image, c'est pas la vérité.
Bah non, ça peut l'être dans certains cas, attention. Hein. Mais la foi vraiment aveugle dans l'image et dans la technologie, ça fait des dégâts, mais pas seulement au foot, hein, dans toute notre société. Donc, il faut quand même garder un peu le sens critique. Et on voit bien que là, Infantino, il a fait exactement le contraire. Il est parti à fond dans un truc qui était même pas prêt en plus.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, parce que ça c'est l'argument qui révèle plus souvent, qui disent oui mais de toute façon c'est le progrès, donc c'est inéluctable. Ah bah,
je réponds que c'est une connerie. Voilà.
Excusez-moi. C'est un peu court.
Franchement, c'est le progrès, on peut pas continuer comme ça, c'est absurde, ça veut rien dire. Ce qu'il faut voir, c'est la nature du jeu, la nature du sport, et si le moyen technologique qu'on avance, il correspond à quelque chose ou pas. Moi, je suis pas un fan de la GLT, par exemple, hein, la Goal Line Technology, mais enfin bon, ça peut se défendre à la limite. Hein, c'est pas.
Bah, faut reconnaître que ça fonctionne.
Il y a eu des pépins quand même.
Mais et puis il y a certains cas qu'on n'a jamais vu, par exemple le ballon sous le corps de quelqu'un qui rentre dans le but. Est-ce que ça fonctionne?
Voilà. Bon, il y a aussi un problème de fond dans cette histoire, c'est que plus on met en place des outils technologiques, plus on rend l'accès à ces outils quasiment impossible pour des tas de pays. Vous venez de parler, j'ai entendu un petit peu, du fait qu'on accroît le nombre de pays participants à la Coupe du Monde. Mais quand est-ce qu'on va avoir la VAR en Roumanie ou au Paraguay?
Mais c'est pas un problème, ça. Pourquoi ça sera
un problème?
Parce que vous pensez quand non mais attention, là je me mets dans la peau du joueur. Vous jouez, qui est la VAR ou pas la VAR, on en a rien à faire nous. Vous jouez un match pour le gagner, il y a des faits de jeu. Alors s'il y a pas la VAR, eh ben c'est comme le football que j'ai connu, c'est-à-dire il y a de la frustration sur une erreur que tout le monde a vue mais que l'arbitre n'a pas vue, et quand il y a la VAR, ça peut être rectifié. Donc ça c'est,
non, Jérôme,
c'est
non mais ça quand... donne un foot à deux vitesses parce que non, ça, mais y a, ça me revient, il était polonais, l'arbitre de Barcelone-Lyon, et un polonais, un letton et un slovène, ces trois-là n'ont pas la VAR dans leur championnat.
Et voilà,
ça fait un foot à deux vitesses.
Mais alors d'accord, mais ils ont pas la VAR dans le championnat. On a fait la même réflexion pour les deux arbitres qui étaient italiens du match contre Manchester PSG Manchester United sur alors, le penalty où PSG, ces deux arbitres-là étaient habitués à avoir la VAR
plus précis encore. L'arbitre central était slovène. En Slovénie, il y a pas la VAR.
Il y a pas la VAR, ouais.
Et du coup, les deux arbitres dans le camion
qui eux sont habitués à le faire parce que c'est
italien,
eux, c'est eux qui le font en Italie.
Était italien
et que systématiquement ils sifflent ce genre de match.
Exactement, parce qu'en Italie les consignes du patron des arbitres en Italie, c'est de regarder toutes les mains.
Ouais. Absolument, Rizzoli a imposé ça.
Voilà, Rizzoli. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu dans le bouquin.
Oui, je le cite.
Et donc certainement qu'il
donc, a eu un réflexe.
Ça veut dire que ça fait une appréciation qui est complètement différente.
Non, bien sûr. En fait, ça aurait été deux Polonais dans le cas. Est-ce qu'ils auraient regardé la main? On ne sait pas.
En fait, je pense que.
Mais ils l'auraient regardé la main.
Titre Jacques du livre, c'est la VAR tue le football. En fait,
non, comment la FIFA tue le foot.
Oui, et ouais.
Arbitrage vidéo.
En fait, ce que je dis moi depuis que on le voit mis en place, parce que moi mine de rien, ce que je voulais c'était le voir. À partir du moment où il décidait de le faire, c'est que plus que le tuer, parce que si on continue à regarder le foot, En fait, ça change la nature de l'appréciation et ça change la nature de l'arbitrage. L'histoire des mains le prouve, il va falloir redéfinir complètement ce qu'est une main ou pas une main, donc on va refaire un règlement par rapport à ça.
Le règlement a toujours été, que ça soit avec le VAR ou sans le VAR, t'es d'accord que le règlement pour les mains, c'est n'importe quoi.
Certes, mais là,
c'est n'importe quoi.
Là, c'est n'importe quoi, en fait, ça n'a pas arrangé, parce que on est de nouveau dans le n'importe quoi, et il va falloir essayer, parce qu'on n'a jamais réussi, une bonne fois pour toutes, de voir un petit peu ce qui est une main ou pas une main. Donc, le VAR devait te dire, il y a main ou il n'y a pas main, parce que c'est évident à l'image. De ce côté-là, ça n'a pas du tout progressé.
On est, ça ne peut pas.
On est bien d'accord. Après, il y avait le hors-jeu
hors cas de un mètre hors jeu qui était évident et tu te demandais si l'arbitre de touche n'était pas aveugle. C'est arrivé, hein, oui, genre d'erreur absolument dingue. Bon, bah là, effectivement, ça te permet de le voir parce que l'arbitre de touche est mauvais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le nombre de cas dingues où ça se joue à une poignée de centimètres, ça, il faut se mettre dans la tête que ça, on ne me fera jamais admettre que la vérité est par l'image quand on sait comment ça marche et quand on sait comment c'est déclenché.
Bien sûr, Daniel, nous
mais Jérôme, on en revient à, parce que moi j'ai quand même essayé d'évoluer, parce qu'après tout, à partir du moment où on te l'impose, il faut bien évoluer. Donc j'en reviens à tout ce qui avait été dit sur l'erreur manifeste, mais on est allé bien au-delà de l'erreur manifeste. Pardon, revenons aux cas présents, parce que les cas présents, c'est ceux dont tout le monde se souvient. La main de Kimpembe, c'est pas un cas manifeste.
Oui, non, mais on est d'accord.
Donc, il devait pas y avoir intervention. Le cas manifeste, c'est le 1 mètre hors jeu. C'est
l'erreur d'individu sur un carton rouge,
oui, par exemple. Une fois, on a vachement dévié. Mais... C'est-à-dire qu'on est allé au-delà de même ce qu'on nous avait promis. Alors, je vais même pas parler de moi qui était contre complètement.
Je suis d'accord.
À partir du moment où moi je fais un pas vers eux en disant bon, ok, vous l'avez voulu, voyons-le. Mais putain, mais vous êtes allé carrément au-delà de ce qui était annoncé. On n'est pas dans. Il y a un tas de cas. Ça n'est pas de l'erreur manifeste.
Mais on est d'accord.
C'est une autre interprétation. L'erreur manifeste, ça ne devait pas être.
Il y a même plus d'autres.
Jérôme, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, et c'est pour ça que je suis partagé, parce que je suis pas contre la vidéo. Je trouve que
tu l'étais comme nous, c'est-à-dire que toi tu faisais un pas dans ton sens, moi dans l'autre. En gros, l'histoire c'était
laisse-le finir.
La main de Maradona intervient.
Voilà, exactement. Donc il y a ces petites erreurs là, et du moins les petites erreurs, grosses conséquences à l'arrivée. Hein, la main de Kimpembe,
la main de Thierry Henry,
les hors-jeux
là t'interviens. Là on peut pas accorder le but.
C'est vrai que ça. C'est énervant quand tu regardes le match, quand tu es spectateur, téléspectateur, c'est énervant. Si tu le prends que en observateur du football, je trouve que le VAR n'a rien à faire dans le football. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis placé de l'autre côté, je suis plus sur le terrain. Quand je vois tous les problèmes que ça peut créer, je me dis le VAR, il faut arrêter. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Peut-être qu'un jour on le sera. Mais aujourd'hui, c'est pas possible.
On le saura quand on limitera au maximum.
Quand
on le limitera au scandale.
Non, mais quand t'es
joueur. Si on le limite au scandale, je pense qu'on sera, on fera tout sympa les uns vers les autres.
Je sais. Par contre, je me mets dans la peau du joueur que j'étais. Et ben, franchement, c'est pour ça que j'étais pour la vidéo, parce que il fallait améliorer des choses. La frustration, quand
le scandale, Jérôme.
Voilà, t'as l'impression que tu te fais avoir par l'arbitre. Oui.
Mais dans le cas du scandale.
Ouais.
Mais par exemple, le péno, je crois qu'il n'y a pas eu de consultation de VAR, mais imagine qu'on ait consulté pour le péno dans le Juve Atletico. Non, dans le Juve Atletico, la poussette dans le dos.
Kellini,
Non, l'autre. Le péno,
exactement.
Bon, là, je crois qu'il a décidé, alors qu'il n'a pas eu besoin. Mais si dans ce cas-là, t'allais voir, et ça, on en a eu plein des cas comme ça, on est allé voir, alors que c'est une image au ralenti, que le mec met la main dans le dos, ça, il faut laisser appréciation l'arbitre qui est sur le terrain. Basta. Et la même chose sur la fin, si on était allé voir pour Chiellini, Correa. Surtout qu'on n'aille pas voir ça. Mmh. On n'aille pas voir ça. Donc, on en revient à quelque chose dont on a dévié, qui aurait dû être uniquement l'erreur, ce qu'on appelle le scandale.
C'est une dérive qui est quasiment inscrite dans le système, quoi. C'est ça qui est important.
C'est ça.
Ça dérive forcément.
Parce que sinon les VAR partent en vacances.
Qui sait que les erreurs manifestes, il n'y en a pas tant que ça, des erreurs manifestes. Ils sont tentés d'intervenir, du coup, ils entrent dans des interprétations. Et c'est, en Allemagne, il y a eu de très gros problèmes. Il y a même un mec qui s'est fait virer, un ancien arbitre. Il était devenu assistant vidéo, et il est intervenu trop sur un match. Du coup, on lui a reproché d'avoir faussé le match, quoi, parce que l'arbitre il a donné un carton jaune. Le VAR lui a dit non, c'est un carton rouge. Trois minutes après, c'est un carton rouge, ça revient à un carton jaune. Et il s'est fait virer en tant que VAR, voilà. Parce qu'il faut quand même qu'il fasse des choses, les mecs. Mais ils sont devant des écrans, ils vont pas rester.
Alors qu'un manifeste, ça aurait été une intervention tous les
jours,
un truc comme ça.
On tourne un peu autour du pot entre l'outil et l'humain. Alors Jérôme, t'as été joueur. Moi, quand je bossais dans le foot, enfin à la Fédé, je bossais avec les arbitres. depuis 20 ans, 25 ans, on est passé de 8 caméras à 20, 25 caméras. Les arbitres, ils s'en prenaient plein la gueule. À un moment donné, les arbitres, les premiers, et c'est eux qui sont aussi un rouage essentiel du jeu, ils demandaient
qu'il y ait plus de justice
parce que tu t'en prends, c'est pas les masochistes non plus, d'accord. Sauf que, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est ce qui a été exprimé il y a quelques semaines, justement, par l'ancien président de l'UEFA, par Platini, c'est qu'ils sont en train de se protéger les fesses, pour rester poli. Et ça, je sais pas si on l'avait vu venir. On a beaucoup parlé de la technologie qui n'est pas appropriée. Moi, j'étais plutôt pro-VAR. Je suis devenu, au fur et à mesure que la technologie s'est mise en place, dubitatif. Aujourd'hui, je suis varo-sceptique, on va dire. Pourquoi? Permettez-moi l'expression.
Quelle évolution, bravo.
Non, mais parce que c'est pas l'outil que je conteste. Moi, je pense que l'outil, il est bon. Même si c'est un choc culturel et comme n'importe quelle nouvelle culture, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. En revanche, c'est ce que les arbitres sont en train d'en faire. Et les arbitres, ils sont en train de se protéger, les arbitres centraux principalement. Et ils sont en train de laisser les clés de l'arbitrage et d'une donnée essentielle. Et quand je disais que ça tourne autour du pot, parce que Daniel, tu l'as pas dit comme c'est l'intentionnalité. Dans l'arbitrage, c'est le seul sport collectif où l'intentionnalité est à ce point prépondérante dans le jeu. Et on est en train d'avoir une automatisation, et je vais vous lire la décision qu'a prise l'IFAB, qui est abracadabantesque, il y a deux semaines.
L'IFAB, c'est le board.
C'est ceux qui décident les règles de ce sport. Sur les mains offensives. C'est-à-dire que Jérôme Bretagne, quand il joue au foot, s'il contrôlait un ballon de la main d'une manière par inadvertance, non volontaire,
et qu'ensuite avec mon pied gauche ou non
de la main, et qu'ensuite tu marquais un but, on annule le but systématiquement. Les cas de figure, on a vu des joueurs céder de la main pour marquer un but.
Thierry Henry,
c'est William Gallas qui le marque.
Mais Thierry fait exprès.
C'est rare. Le texte, il est extrêmement flou, et je peux pas imaginer une seule seconde que des mecs comme Colina, comme Bouzaka, le Suisse qui est un ancien arbitre international qui travaille à la FIFA, ne l'aient pas fait exprès. Au sujet de la définition de la main, l'IFAB a décidé de fournir une définition plus précise et plus détaillée qui constitue la main, le contact de la main au ballon. En ce qui concerne le cas où la main non délibérée accidentelle sera sanctionnée. Par exemple, un but marqué directement de la main, du bras, même accidentel, et un joueur marquant ou créant une occasion de but, Thierry Henry contre l'Irlande avec le but de William Gallas, après avoir pris possession, contrôle du ballon de sa main, de son bras, même accidentellement, ne seront plus permis. Pas un mot sur 95-99% des mains que l'on constate dans le foot, qui sont les mains dans les phases défensives. Et là, c'est pas une porte.
Dans les mains défensives, c'est
un gouffre qu'on est en train de creuser sur le travail de l'arbitrage, sur mesurer l'intentionnalité ou pas de la main. Et si on commence à aller dans ce sens-là, d'une automatisation des décisions, mais même sans la VAR, on n'a pas besoin de la VAR. Du moment que tu as un contact avec la main et le ballon,
récemment, c'est ce qu'on a vu, François.
Il frappe sur la main du défenseur.
C'est ce qu'on a vu récemment. C'est-à-dire que.
Bien sûr.
Main décollée,
pénalty.
Non, main tout court, mon vieux.
Mais c'est main tout court, là, maintenant.
Les attaquants vont se mettre.
Tu peux shooter dans la main.
Ils vont viser les mains, maintenant.
Et il y aura 15 pénalty par match.
Bon, tu me diras, je l'avais vu à la Coupe du Monde 98, Italie-Chili, Baggio avait visé la main, d'un défenseur chilien, il avait eu le péno.
Bah voilà. C'est juste, sur les arbitres qui, en gros, se couvrent, comme le dit François, vous êtes d'accord, Jacques?
Totalement.
Ah oui. Bah moi, je constate que théoriquement, la Ligue des Champions, on devait attendre le début de la saison prochaine, d'après ce que j'ai compris. Ouais.
C'est vrai.
Et je sais pas tous les détails sur cette histoire, mais j'ai lu, ça, c'est quand même fou, que les arbitres pouvaient plus attendre, quoi. Alors je sais pas si c'est. Moi, je trouvais que Šeferin faisait un assez bon boulot parce que le président de l'UEFA.
Šeferin était initialement contre.
Qu'il était quand même très prudent. Hein. Il attendait.
Il disait c'est pas convaincant.
Mais la pression a été dure.
Oui. Et puis ça représente quand même du fric. Hein. C'est beaucoup d'argent tous ces matchs. Hein. Donc il y a aussi des aspects budget.
L'utilisation de la vidéo, Jacques. Pour l'aspect financier, l'utilisation de la vidéo.
Non, mais je veux dire, là, je parle de Čeferin. Čeferin, on a beaucoup attaqué, je l'ai même vu attaquer dans le journal Le Monde, en disant que finalement, la FIFA était en avance sur l'UEFA, qui était à la remorque, etc. Faut pas exagérer.
Il y a toutes sortes de
facteurs qu'un président, il doit prendre en compte. Y compris l'aspect financier, y compris l'aspect technique. Ça tombe pas du ciel, hein, la vidéo. C'est une grosse armada technologique, hein.
On va continuer le débat ensemble dans quelques instants. On va accueillir au 32-16 Riles qui veut également intervenir. Et évidemment, Jacques Lossiszewski est avec nous ce soir. Arbitrage vidéo. Comment la FIFA tue le foot? C'est son bouquin. Très intéressant, bien sûr, comme le premier. Dans le premier, vous mettiez une grosse charge au réalisateur télé, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs sur le sujet. Hein, ils ont tendance à pas trop voir s'exprimer. Ils sont les bienvenus, hein, dans l'after. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jean Montaigne, Daniel Riolo, François Manardo, un nouveau varo-sceptique. J'aime bien ce mot, varo-sceptique.
Je vais le déposer.
Très bien, c'est
quand tu déposes ta chanson, tu déposes ton organe et moi, varo-sceptique.
Varo-sceptique. Et donc, Jacques Blosiszewski pour son bouquin sur l'arbitrage vidéo avec nous ce soir.
Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un peu le jingle moldave, là.
Tu le veux?
Oh, ouais, j'aime bien.
Attention, vas-y. Jingle moldave.
Vas-y. Allô?
N'allez pas vous en remettre. Allez, on accueille Riles qui va intervenir dans le débat. Bonsoir.
Allô.
Bonsoir.
Salut, on t'écoute.
Bonsoir. Ouais. Alors, justement, en fait, moi, je vais, si vous le permettez, je vais essayer de décomposer le débat en trois petites parties parce qu'en fait, le sujet il est assez clivant, donc.
C'est vrai.
Moi aussi, je suis souvent pas d'accord avec moi-même, donc là-dessus, donc c'est pas très facile. Du coup, au départ, on peut déjà être d'accord sur le principe, c'est-à-dire que le principe, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt conservateurs dans le foot et qui peuvent légitimement considérer que ça dénature le foot et qui sont pas pour en fait. Et il y a d'autres personnes qui diront que si ça peut réduire les erreurs, pourquoi pas, ça me dérange pas de que le foot change un petit peu si on met la vidéo en place. Donc déjà là-dessus, je veux dire que celui qui est contre la vidéo par principe, se dire que ça dénature le foot, c'est déjà un argument pour être contre en fait. Par contre, les autres, ils peuvent tout à fait aussi envisager le fait de la mettre en place. Et du coup, derrière, en fait, on passe à la deuxième partie qui est plutôt le fonctionnement de la vidéo, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça coûte en tant que comment la déployer, quels sont les critères, etc. Là aussi, du coup, il y aura d'autres personnes qui vont dire que voilà, si nous ça nous prend 5-10 minutes, ben on sera pas d'accord pour la mettre. Et d'autres qui diront tant pis, si ça réduit les erreurs, ben on y va quand même. Et du coup, la dernière partie, c'est la partie résultat. Et la partie résultat, moi je pense que à l'heure actuelle, c'est pas très concluant de juger la vidéo parce qu'en fait. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'échantillons statistiques pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir vraiment juger la vidéo si elle fonctionne ou pas, c'est-à-dire pour pas fonctionner, je veux dire, est-ce qu'elle réduit le nombre d'erreurs aux moyennes qui sont constatées pendant un match, bon, en fait, c'est-à-dire qu'il faut comparer un nombre de matchs suffisamment important avant la mise en place de la vidéo, puis faire la même chose après la mise en place de la vidéo et de comparer les chiffres. Pour moi, c'est le seul moyen de savoir si ça réduit les erreurs ou pas.
Donc en conclusion, tu préfères pour l'instant ne pas te prononcer.
Ouais, moi, pas de conclusion.
Et tu préfères attendre encore l'utilisation sur la durée, quoi.
Oui, et qu'il y ait ce type d'étude-là justement pour justement attester est-ce que ça marche ou pas en fait.
Alors Jacques Blosiszewski là-dessus, est-ce que vous votre avis est définitif ou est-ce que vous dites bon? Tout de même, sur la longueur, voyons si les choses s'améliorent, si l'outil, le bon outil dont parlait François, sur la durée peut s'avérer concluant.
Mais ça peut, c'est évident que la VAR évite des erreurs, c'est évident. Mais est-ce que ça en évite suffisamment pour par rapport à tous les, ce que je dis dans le bouquin, par rapport à tous les inconvénients que ça trimballe, quoi, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Et puis alors, il y a la question des chiffres, on va faire des statistiques, mais qui va faire les statistiques? Et comment on va définir une erreur?
Oui, parce que si c'est le même qu'à la Coupe du Monde, on n'est pas d'accord.
Les chiffres de la FIFA, de l'Allemagne et de l'Italie, c'est tous les mêmes. 99,25 en Bundesliga, 99,3
au Mondial. Je ne sais pas s'il y a moins de scandale d'arbitrage depuis qu'il y a eu ça, quoi. Moi, clairement, je suis d'accord aussi pour dire que parfois, oui, il m'a semblé que des grosses erreurs ont pu être évitées, et tant mieux. Mais dans le même temps, il y en a eu plein qui ont existé
En raison du VAR.
Oui, oui, oui. Il y a toujours autant de polémiques.
La main de Kimpembe, mais
il y a toujours
le péno à Lyon, c'est dans l'autre sens. Bon, du coup, t'es emmerdé parce que tu te dis, bah tiens, ça aurait été bien de regarder là quand même. Pourquoi vous avez pas voulu regarder là? Tu vois, c'est un peu chiant, voilà, parce qu'il y a pas. Donc, tu vois, le truc, c'est qu'on te dit, il va y avoir de la justice parce qu'on a l'outil. Ah bon, mais pourquoi merde pour nous, vous le faites pas? Ça c'est pénible. Donc c'est un truc à l'envers. Donc on a eu deux clubs français. Bon, pour Lyon, je sais pas si ça change. Peu importe, en tout cas, c'était début de match. Hein. Il y a eu deux fois, alors qu'il y a le VAR, des épisodes qui nous rappelaient il y a 20 ans, ou enfin quand il n'y avait pas de VAR. Quoi. Donc finalement, moi j'aurais aimé, je répète, que pour uniquement l'erreur manifeste, le mec appelle, tiens, vraiment, le monde entier est en train de voir qu'il y a un scandale. Reviens sur le truc. Oui. Et basta, juste ça, juste ça. Et là, on avait un outil. Effectivement, on réparait la fameuse injustice qui ont marqué les esprits dans l'histoire du sport. Bon, bah oui.
Mais tu peux pas. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Et non, encore
aussi,
une fois,
oui. Je suis d'accord. Mais
on est. Oui, oui, parce que nous, on est de l'autre côté. On est là. On n'est pas sur le terrain. Mais va expliquer à un joueur que on n'a pas signalé le hors-jeu. Parce que ça s'est joué à quelques centimètres et que c'était pas pour eux une erreur manifeste. Zéro, mais c'est un scandale quand
non,
même.
Mais non.
Donc il est là, le débat mais il
non,
est pas bon.
Non.
Ben oui.
Le seul truc, c'est que quand tu sortiras en tant que joueur, tu ne seras pas frustré parce qu'on te dira, franchement, on peut pas réellement savoir. Il y a des mecs qui vont dire oui, il y a des mecs qui vont dire non.
Moi, je te réponds à un autre truc là-dessus.
Tu le sais,
c'est
les hors-jeux.
Non,
moi, je te prends l'exemple des hors-jeux.
Mais justement, moi, je te dis que si c'est absolument clair, le mec, il dit, il y a hors-jeu, mec. Ah, arrête le truc. Donc, en fait, tu n'aurais pas eu ta frustration. Moi, en revanche, si t'es un peu sur la même, à partir du moment où il y a,
je pense que,
donc, dans ce cas-là, il y a doute. Le mec intervient s'il ne peut pas y avoir de doute nulle part dans le monde. C'est tout.
Mais en fait, la vidéo n'a pas de doute sur. Là, je te prends l'exemple juste des hors-jeux. Les hors-jeux, il y a pas de doute. On est d'accord.
Et ben, quand il y a pas de doute, que vraiment, le mec est dans la zone et tout.
Aujourd'hui, on regarde au centimètre près.
Et ben oui, mais c'est
sur mesure près.
Et ben oui, mais vas-y, hors-jeu.
Mais non, Gilbert, tu intervenais. Tu ne faisais intervenir le mec que quand le gars dit. Ah non, il y a personne dans le monde qui pourra se dire oui ou non. Ou qu'il y aura un doute.
Moi, je commente les matchs avec tous les ralentis que t'as. Forcément, le hors-jeu, tu le vois. Il y a hors-jeu ou il y a pas hors-jeu. Point.
Mais s'il y a ou il y a pas, t'interviens.
Alors.
Donc, pas sur la même ligne.
S'il vous plaît. Je reprends la main.
Pas à partir du moment où il y avait la possibilité de dire oui ou non. Voilà, c'est tout. Et les mains, c'était pareil. Et tous ces trucs-là.
Vas-y, toi, l'anti-vidéo. Vas-y.
Il y a un truc que je ne comprends pas chez vous, les anciens pros. Toi, t'étais ailier gauche. Bon, si ton avant-centre, il rate tout du match. Tu vas sortir du terrain, tu vas dire c'est pas grave, c'est l'équipe. Et une micro-erreur de l'arbitre, tu vas nous en faire une montagne.
Mais
en fait, tu crois pas que tu déplaces un peu le débat là ?
Mais je déplace pas le débat.
Acceptait tout simplement. Ouais. Que l'arbitre a un minimum aussi de droit à l'erreur.
Mais attends, tu dis ça à moi. J'étais obligé, il n'y avait pas le VAR. Nous, on était obligés d'intégrer ça dans nos têtes, dans la frustration. T'acceptes aussi que l'arbitre se trompe.
Sur le moment, c'est difficile. Quand tes coéquipiers soient en dessous de tout nullissime, mais tu n'acceptes pas que l'arbitre commette la moindre micro-erreur.
Mais t'as du mal à l'accepter quand c'est une décision que toi t'as vu que c'est une erreur, comme dit Daniel, une erreur manifeste.
Ça dépasse, pardon, mais j'ai été avec des joueurs, j'ai vécu avec eux. Des fois, ça dépasse juste accepter ou pas accepter. C'est que t'as le sentiment de t'être fait carotter.
Mais c'est ça.
Ça passe beaucoup, beaucoup plus difficilement que, ok, j'accepte, il s'est trompé. Non, des fois, les joueurs,
c'est
pas seulement à chaud.
Et c'est pour ça, je te dis, je prends la majorité des footeux, ils sont dans ce sens-là. Le VAR était fait pour corriger, essayer de corriger cette frustration. À l'arrivée, elle corrige rien aujourd'hui. Parce que la frustration,
Monsieur Langenov, en 91, il fait pas qu'une erreur.
La main de Vata.
Il fait pas qu'une erreur.
Mais la main de Vata, c'est d'accord.
Bah, c'est Eric Dimeco qui était pas au marquage.
Mais la main de Vata, à vitesse réelle, comment tu veux l'avoir? Franchement, l'arbitre, il y a un joueur devant lui, c'est compliqué. Me dites pas que le VAR là-dessus peut pas bien intervenir.
Il y a un élément dont on a parlé
oui ou
la justice.
Merci.
On en a parlé pendant la pub là entre nous. C'est la question de la double peine, Jacques, aussi pour l'arbitre central. C'est que quand il est appelé par le VAR, il sait déjà a priori qu'il a fait une bourre.
Ouais,
qu'il s'est... Donc commence déjà à rentrer dans ses petits souliers.
Donc, quand il est appelé par le VAR, il va suivre ce que lui dit l'image quasi systématiquement.
Laisse-moi finir mon propos.
C'est un problème quand même.
Donc, c'est déjà il y a un rétro-pédalage, alors que c'est lui qui est le détenteur de la justice du jeu. Bref, il arrive, il constate quelque chose au niveau du VAR où il doit interpréter. S'il maintient sa décision, comme c'est le cas de l'arbitre de PSG Rennes, contre toute logique, il laisse le jaune à Mbanyang, alors que ça doit être un rouge, vermillon à rouge direct. C'est double peine pour lui, parce que non seulement il s'est trompé une fois, et il se trompe une deuxième fois. Et c'est humain, que tu sois arbitre, ou même que tu fasses un autre boulot, c'est extrêmement difficile de reconnaître, déjà qu'on s'est gouré, et de le reconnaître deux fois, au vu et au su de téléspectateurs, de spectateurs, et des médias. Donc quand il est appelé par le VAR, et c'est là aussi moi que ça m'emmerde, c'est qu'il y a déjà, chez l'arbitre, consciemment ou inconsciemment, le fait de se dire, je vais sans doute 9 fois sur 10 suivre ce que le VAR va me montrer, va me dire. Et c'est là que l'arbitrage est biaisé. Et c'est pour ça que je suis très sceptique. Alors,
Jacques Blosidewski là-dessus, d'accord avec François?
Oui, parce que c'est le... Colina, il a fait, pendant sa conférence de presse au Mondial, il a fait entendre 3 extraits. Donc on a eu une petite idée de comment ça se passait. Et les VAR, ils sont quand même... Il y a toutes sortes d'attitudes des VAR. Il y a des VAR qui interviennent beaucoup, il y a des VAR qui interviennent très peu. Et puis il y a des VAR qui suggèrent et il y a des VAR qui ordonnent quasiment, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a entendu pendant la conférence de Colina, c'était frappant. C'est-à-dire, le gars, il dit pas, ce serait bien que tu ailles voir un petit peu sur ton écran parce qu'il y a...
Il peut y avoir...
Ça vaudrait le coup d'aller voir, quoi. Bon. Non, il y en a qui sont quasiment, c'est tout juste, ils disent pas, il y a péno, quoi. Voilà, ouais. Bon. Effectivement, l'arbitre, d'ailleurs, pendant la Coupe du Monde, il a suivi systématiquement. Hein. Les arbitres, ils ont pas une seule fois désavoué le VAR. Ils ont suivi systématiquement l'avis des VAR.
Alors, il y a un chapitre dans le bouquin qui est intéressant. C'est l'analyse par les gens du foot, les journalistes, les consultants, de ce qui se passe. Et en fait, Jacques, vous déplorez. Finalement, le manque d'informations et le suivisme un peu général autour de la question. C'est-à-dire
qu'il n'y a
jamais eu vraiment de débat, en fait. Et
c'est un peu dommage. C'est dramatique. Je veux dire, à part des endroits comme ici, enfin, ça ressemblait, c'était un petit peu différent
ici,
à l'époque. Mais à part l'afterfoot, je veux dire, Canal, par exemple, Ménès, c'est dramatique. Quoi. C'était Ménès, on entendait, ça prend 3 secondes, ça prend 5 secondes. Moi, j'ai fait une émission sur France 24, il y avait Benazi et Derrien en face de moi. Benazi disait, ça prend 10 secondes. Je dis, pardon.
Oui, tu sais qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne voulaient pas du tout débattre, oui, en parler.
Oui, c'est ça.
Ils actaient le truc comme acquis.
Non, mais la journaliste qui animait, elle le prenait tel quel, ça. Si Benazi disait c'est 10 secondes, c'est 10 secondes. Or, au Mondial, c'est pas 10 secondes, c'est 80 secondes. Ouais. Hein, c'est quand même 1 minute 20. Et dans certains cas, c'est carrément 2-3 minutes.
Ah oui, hein. Oui. 2-28 Ajax Real Madrid.
Bah, le PSG Manchester, le penalty.
Ah ouais.
Ça s'appelle long. Personne, hein,
ça
c'était ceux qui décident.
Non, mais ça, c'est quand même un truc aussi typique Suisse. Du foot. C'est-à-dire, il y a un suivisme général souvent dans ce qui se passe dans le foot. Et on décrète qu'on peut pas jouer tous les 3 jours. On décrète telle compétition est pourrie. Et là, on décrète que la VAR c'est bien. Donc la VAR c'est bien. Et puis on se pose pas la question finalement de savoir si ça l'est vraiment. Il y a pas.
C'est que des préjugés favorables pour l'image, quoi. Voilà.
Bah, c'est bretelles et ceintures.
Non, mais aujourd'hui,
on a le voit sur la couture là-dessus.
Aujourd'hui, avec plein d'exemples qu'on a dans toutes les compétitions, presque, on a le VAR. On est, c'est pour ça qu'on est là et on a le même discours là-dessus. C'est que il y a des choses, ils sont pas prêts, quoi. Il y a tellement de choses à améliorer que pour l'instant, c'est plus négatif que positif.
Ça, non, mais en Allemagne, ils découvrent sans arrêt des nouveaux trucs en ce moment.
Jérôme, qu'ils ne soient pas prêts, effectivement, déjà. Mais après, s'ils entament cette dérive qu'ils ont commencé là, cette dérive de se retrancher à chaque fois derrière le VAR, qui lui a le droit de se planter aussi. Là, c'est même pas, ils seront pas prêts.
Ouais.
Ça va aller vers une automatisation de l'arbitrage. Et là, c'est
alors,
football contre.
Il y a un truc dont je voulais parler ce soir, c'est qu'on pense qu'il y a une unanimité des acteurs. Et en fait, c'est faux. Il y a beaucoup de joueurs qui, alors, ils sont pas forcément interrogés, vous allez dire, mais il y a beaucoup de joueurs qui disent clairement, ben moi, j'en ai marre. Faut qu'on arrête.
Surtout 7 mois après.
Moi j'en ai encore.
7 mois après, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent en tout cas.
Voilà,
j'en
ai discuté avec des Strasbourgeois, par exemple après le match contre Nîmes. Bon, ils ont été victimes du truc, donc là ils te disent clairement, nous c'est plus possible.
Oui, écoute, peut-être ils étaient à chaud.
Ils sont à chaud. Bah écoutez, Bruno Genesio. Alors lui, il a gagné le match. On peut pas dire qu'il a été victime, il a gagné le match contre Montpellier dimanche. Après la rencontre, on l'interroge. Écoutez ce qu'il dit sur sur la VAR.
Il y a pénalty. Je reproche qu'il y a pénalty. Alors quand on fait une erreur, s'il n'y a pas le VAR, on l'accepte, c'est humain. Mais si maintenant, en plus, même avec la vidéo, on corrige pas les erreurs, ça sert à rien. Reprenons comme c'était avant, et au moins on aura moins de regrets à la fin du match, parce que l'erreur, elle est humaine, je l'ai toujours dit. C'est pas mon habitude de critiquer quoi que ce soit, je l'ai jamais fait. Mais là, il faut quand même m'expliquer comment, avec les images, on peut me dire qu'il n'y a pas faute. De la même manière qu'il faudra m'expliquer comment, lors du match Barcelone-Lyon, avec le VAR, on me dit qu'il n'y a pas faute. Voilà. C'est tout. Je veux juste une explication. Il faudra qu'il regarde les images et que moi, j'ai pas besoin de la VAR ou du VAR pour voir qu'il y a pénalty sur Martin. Et je pense que là, il faut quand même faire des réunions pour nous expliquer comment fonctionne la VAR. C'est bien gentil, mais il faut, à un moment donné... ça fait deux matchs de suite qu'on est pénalisé. Celui de mercredi, encore plus que celui de ce soir, parce qu'on gagne. Mais il faut quand même se pencher sur le fonctionnement de cet outil qui devrait régler tous les problèmes, mais qui, force est de constater, ne les règle pas tous.
Et lui, il a introduit un autre degré de réflexion qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est moi, j'étais prêt à accepter l'erreur, parce que je trouvais qu'elle était humaine. Et donc lui, effectivement, ne faisait pas partie des entraîneurs qui chouinaient, qui reprochaient des choses aux arbitres. Ils sont pas tous comme ça. Lui était dans cette catégorie. Donc, l'erreur humaine, il l'acceptait. Mais à partir du moment où on lui a dit, la machine va empêcher les injustices, en fait, il ne supporte plus que même avec la machine, que il y en a ça, encore.
La promesse n'est pas tenue.
Moi, j'ai été un petit peu sur cette ligne-là.
Et donc, c'était il a raison parce que la frustration, elle est
accentuée. Eh ben oui. On te dit, il y a la machine, mais pourtant, il y a encore de l'injustice. Donc, ça le gave encore plus. C'est une autre dimension, en fait.
C'est pour ça que les joueurs,
qui est intéressante, d'ailleurs.
Les joueurs, et là, je te le dis, parce que, pareil, j'en côtoie, j'ai été sur le terrain, quand le VAR est mis en place, tu l'accueilles avec beaucoup de plaisir parce que tu te dis
ça va être
là,
nickel.
Ça va résoudre beaucoup de, alors pas tout parce qu'on n'est pas cons, pas tout. Mais sauf que au bout de quelques mois, et c'est vrai que ça fait 7 mois dans le championnat, alors je parle pas des équipes qui jouent à Champions League parce que Lyon, ils ont raison, ils peuvent avoir d'autant plus les boules par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone. Là, tu te dis écoute, non, ça résout rien du tout et la frustration elle est multipliée encore. C'est ça qui est le plus terrible dans le foot quand tu joues. Autant, et je suis d'accord avec lui, quand tu commences les matchs, t'as pas le VAR, moi je l'ai connu toute ma carrière, c'est pour ça, donc tu te mets dans la tête. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu commences un match, tu le fais pour être le meilleur et pour essayer de gagner contre un adversaire, mais tu dois lutter aussi contre les erreurs d'arbitrage, c'est humain. Donc t'acceptes quand l'arbitre est assez cool, t'acceptes plus facilement que quand c'est un gros con, comme je le dis souvent, sur certains, hein, pas tous. Mais tu l'as, sa frustration, et t'es préparé à ça. Quand t'as le VAR, normalement, t'abordes le match différemment. Et je l'ai pas connu, mais j'imagine que les joueurs aujourd'hui, ils se sont dit, voilà, le poids de l'arbitre, c'est bon, c'est réglé,
l'impact psychologique que ça peut procurer, juste 2 secondes. Dans les 2 éliminations rocambolesques du PSG en Ligue des Champions.
Ouais.
Dans celle du Barça, limite, la faute de Di Maria, il n'y a pas de VAR. Tu dis, ok, l'arbitre se trompe, peu importe. Moi, ce soir-là, j'avais même pas discuté de l'arbitrage. Alors qu'on pouvait mettre ça en avant. Dans Manchester, le fait que le mec frappe, que dans l'esprit du jeu ce soit à ce point délirant, qu'on aille contrôler, qu'on revienne et qu'on dise il y a péno, là je trouve que c'est au-delà de la cagade absolue de l'équipe. Là je trouve que c'est mais tellement dingue d'un point de vue du foot, de l'esprit foot. Ça c'est un énorme scandale. Plus pour moi que PSG Barça, ou ok, on peut dire il y a péno sur Di Maria.
Plus que c'est un scandale plutôt que extrêmement sévère.
Dans quelques instants, on continue le débat.
Par rapport à l'esprit du jeu, c'est juste dingue.
On aura Abdallah au 32-16.
Il y a le pénalty sur
contact. Stop, Daniel. Et on profite de la présence de Jacques Bossizet sur un petit quart d'heure.
Ah bah oui.
À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jean Montaigne, Daniel Riolo, François Malardo, Jacques Blosiszewski, l'arbitrage vidéo ce soir, comment la FIFA tue le foot avec l'arbitrage vidéo, c'est le bouquin de Jacques. Avant d'accueillir Abdallah au 32-16, je veux quand même rappeler que notre ami Pierluigi Collina, qui aujourd'hui installe la VAR au niveau mondial, était initialement contre. Hein. Et il avait d'ailleurs eu cette déclaration que rappelle Jean-Pierre. Oui. Il était contre. Et Jean-Pierre nous rappelle cette déclaration de Collina il y a quelques années. Il avait dit « Le football est un sport imparfait. Pourquoi voulez-vous que les arbitres le soient ?»
Mais oui. Voilà. C'est le patron de l'arbitrage mondial.
C'est après, le patron de l'arbitrage mondial, il est rentré dans le business total.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis, hein, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Stéphane Lannoy, par exemple, il jurait ses grands dieux qu'il était farouchement contre la vidéo. Et puis aujourd'hui, il est pour.
Il est souvent avec nous quand on regarde les matchs. Je peux te dire, Jacques, que franchement, il a du mal à comprendre. Il est très dubitatif. Il dit qu'il ne comprend plus rien du tout à ça. Et à mon avis, encore 2 mois et c'est bon.
Alors peut-être qu'on s'est fait avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des problèmes. On s'est fait une sorte d'idée paradisiaque de la vidéo et que la machine, on a donné une sorte de prestige à la machine, alors qu'il y a toutes sortes de machines et que voilà.
Machine ne veut pas dire l'image. Quand vous êtes salarié, c'est soit vous marchez avec, soit vous dégagez. Vous êtes pas d'accord. Et je vois pas Collina dégager.
Non, mais c'est exactement ça.
La soupe est bonne.
Abdallah, avec nous au 32-16. Bonsoir, Abdallah.
Le steak est saignant.
Ouais, bonsoir, les gars.
Salut, ça va?
Ça va,
vous faire. Alors, on t'écoute dans ce débat vidéo.
C'est un frère.
L'arbitrage vidéo, à la base, c'est fait pour aider l'arbitre.
Mm-hmm.
C'est ça l'idée, je pense.
On est d'accord, ouais.
Des actions ou des mains ou des hors-jeux qu'il voyait pas. Qu'il peut pas être partout, et même si ses assistants, je sais pas, ils servent à quoi, je crois, ils sont 5 maintenant sur le terrain. Enfin, il est tout seul, il y a ceux qui font la touche, il y en a un qui est derrière le but encore ou pas.
Ça dépend des compètes. En Coupe d'Europe, il y a.
En Europa League, oui, mais plus.
En Europa League, il y a encore des arbitres de surface, mais avec la VAR, il y a plus d'arbitres de surface.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plus de problèmes qu'avant. Enfin, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe.
Ah non, mais on est d'accord. C'est ce qu'on disait là. Ouais.
Il y a plus de problèmes qu'avant. Maintenant, j'avais regardé le match là, Maroc. Il y avait la VAR pendant la Coupe du Monde.
Ouais. Exact.
Maroc, c'était Maroc qui ? C'était Maroc Portugal ou Maroc Espagne ?
Ou les joueurs marocains.
Maroc Espagne.
Ou les joueurs marocains à la fin du match se plaignent publiquement de la VAR.
Ouais.
Ça ramène quoi la VAR ?
Ah, il y a eu une sorte de fourrage, oui là.
Mais c'était trop. Mais c'est trop. Et moi ce que je vois, c'est que on va dire, parce que maintenant on est parti sur la vidéo, on est parti, ils vont plus l'enlever. On peut pas leur dire de l'enlever.
Le business il est bon là maintenant.
Là ça y est, la vidéo elle est lancée, il y a du business, il y a plein de choses. On sait. Maintenant les trois là, la VAR là. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont. On m'a dit qu'ils sont même pas
au stade.
Autour du stade.
Ils sont dans une aire régie. L'aire régie autour d'un stade, c'est là où on a tout.
Bientôt,
ils seront centralisés.
Ça pose un problème, Jacques. J'aimerais l'avis de Jacques là-dessus. Bientôt, ils seront tous à Paris, en plein centre de Paris, dans le premier arrondissement, dans les locaux qui appartenaient avant à Orange. Enfin, un endroit, où les communications sont, voilà, optimales.
À Cognac-Vieille, vous allez?
Non, c'est un ancien bâtiment qui appartenait à Orange, je crois. Mmh. Donc ça veut dire qu'on va décider du sort d'un match à Dijon, Jacques, ou à Strasbourg, depuis le centre-ville de Paris.
Mais tu peux aller leur mettre la pression derrière la porte.
On est dans le centralisme français, dans toute sa splendeur, là.
Oui, mais en Allemagne, c'est Cologne. Hein, donc voilà, je suppose que c'est une sorte de parti pris.
Ça sent meilleur.
De rentabilité et tout ce qu'on voudra.
Comment c'est possible philosophiquement de se dire c'est un mec qui a 1000 bornes de chez moi là qui va décider.
Ah non, mais ça c'est choquant. Et puis alors l'image, je plains les VAR, hein, parce que franchement, décrypter des images en étant très 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 loin du match, on n'est plus dans le vivant.
Tu sens plus le match.
On ne sent plus du tout le match.
Exactement. Et le pire.
Alors le seul stade qui est pas fibré pour l'instant, c'est Monaco. Et là, à Monaco, ils sont encore obligés d'être dans le camion à côté du stade.
Avec la famille Princière. Mais bon, ça, attendons de voir que ça.
Avec Albert, regarde le match avec Albert, Stéphanie. Mon avis, il va pas.
Ils sont à Cognac. Attendons de voir si s'ils sont à Cologne et qu'à Cologne, enfin en Allemagne. Dans une ville et que déjà on s'aperçoit que ça n'a absolument rien arrangé, que ça empire les choses, oui, pourquoi pas, ça devrait faire la même chose chez nous en France. Mais
ça n'empire pas forcément les choses, mais je trouve que ça a quelque chose de choquant d'être si loin du vivant.
Mais ça changera pas l'idée que ouais. Les arbitres, les centraux veulent se protéger les fesses parce que la soupe est bonne et parce que c'est ils veulent pas reconnaître deux fois qu'ils sont trompés et que quand le VAR les appelle, ils sont déjà sous influence. Et
oui, ça, mais enfin,
c'est les trois mecs dans le camion.
Ils sont traités tous les noms.
Il est déjà.
Pour conclure, ouais. Jacques, j'aimerais quand même, parce qu'à la fin de votre prologue, vous dites, on n'a pas vu beaucoup de manifs contre la vidéo devant le siège de la FIFA à Zurich. Il en faudrait pourtant, si ce livre peut aider à bâtir ce mouvement. Donc vous appelez au soulèvement populaire devant la FIFA.
Ah oui. Non, mais c'est frappant de voir à quel point il n'y a pas de réaction quand
vous
même.
Vous voulez qu'on séquestre Romain Arnaud ou s'il est
non,
un peu
mais c'est, mais non, mais c'est sérieux par rapport à ce que dit Gilbert, parce que. C'est la lettre qu'a reçue Philippe Pial, le président de la FIFA Pro, qui dit aux joueurs, maintenant, réveillez-vous un peu, parce que les joueurs, ou anciens joueurs, mais c'est les joueurs qui sont au cœur du jeu. Et c'est les joueurs qui foutent rien, on peut imposer n'importe quoi aux joueurs. Moi, j'ai l'impression que, dans la mesure où la caillasse, elle tombe à la fin du mois et grassement, passe, et puis je baisse la tête,
non,
et puis,
de la bonne caillasse,
si on fait jouer à 12, et ben, je dirai rien, et si on fait 15 remplacements, je dirai rien.
On va finir là-dessus.
Jérôme, c'est vrai, il y a un syndicat, il sert pas à rien, mais bon.
Je vais conclure sur autre chose, parce que,
on a parlé
du retournement de Colina. Il faut aussi parler du retournement de Platini, qui, quand il était sélectionneur, oui, monsieur, on a les traces.
Oui,
ouais. Il dit, mais t'es sélectionneur. Vivement que la vidéo arrive dans le foot.
Oui.
Parce que, c'est vrai.
Pourquoi tu dis ça?
Mais moi aussi. Hein. Parce que ça va changer les choses.
Mais moi aussi, je pensais que c'était bien au départ.
Mais moi,
au début, mais évidemment, je pensais que c'était un truc qui allait être formidable et tout. Après, j'ai réfléchi, j'ai lu des choses là-dessus.
Lisez le livre de Jacques Mosiszewski pour plus d'infos sur le dossier.
Il faut toujours se documenter. Moi aussi, je pensais que c'était super.
Comment la FIFA tue le foot, l'arbitrage vidéo, les éditions de Lara. Merci Jacques d'être venu.
Avec plaisir.
À très bientôt. Demain, l'after sera là dès la fin de France Moldavie. Un petit jingle Moldavie pour conclure. Demain, Daniel sera là.
Ah, bravo.
On n'a pas de Moldavie.
On se quitte avec la Moldavie quand même là. Oh, voilà. Ah. Allô.
RMC. L'after foot.